Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous, c'est aujourd'hui la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. Une journée importante de sensibilisation car trop de personnes meurent encore chaque année faute de donneurs. En France d'ailleurs, nous sommes tous présumés donneurs, mais si on est opposé à ce don, la loi permet de s'inscrire sur le registre national des refus. Il est donc aussi important de transmettre sa position sur le don de ses organes à ses proches. Alors on estime qu'aujourd'hui en France, à peu près 50 000 personnes sont porteuses d'un greffon fonctionnel, mais plus de 17 000 sont en attente. Si je prends l'exemple de 2014, 20 311 personnes ont eu besoin d'une greffe. Seulement 5 357 en ont bénéficié. Alors pourrait-on faire mieux? Quel est le cadre légal des différentes étapes d'une greffe, du prélèvement à la transplantation? Peut-on aussi donner ses organes de son vivant? Comment les receveurs sont-ils choisis? C'est ce qu'on va voir avec mes invités aujourd'hui. Ils sont deux autour de cette table. Le professeur Olivier Bastien, qui est directeur du prélèvement et de la greffe d'organes tissus au sein de l'Agence de la biomédecine française, et puis Lou Capiquian qui a publié Les reins cassés aux éditions du Seuil, livre dans lequel elle raconte la greffe du rein dont elle a bénéficié et d'ailleurs aussi ce qui a précédé les 7 ans de dialyse. Si vous avez envie de participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Clément Akundun-Guessant, qui est néphrologue au CHU de Yopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et en fin d'émission, comme tous les lundis, on retrouvera la chronique nutrition de Stéphane Besançon. Professeur Olivier Bastien et Lou Capiquian, bonjour.
Bonjour.
Merci vraiment à tous les deux d'être là pour parler d'un sujet important. Professeur Olivier Bastien, d'abord, quels sont les organes les plus souvent greffés? On pense beaucoup au rein, mais il n'y a pas quand même que le rein.
Voilà, en première position, c'est bien sûr le rein, avec plus de 3000 greffes par an depuis plusieurs années. En deuxième position, c'est le foie, avec plus de 1000 greffes par an. Et en troisième position, le cœur, puis le poumon.
Combien de greffes sont réalisées chaque année?
Alors, 5300 greffes ont été réalisées. Chaque année, il y a une augmentation du nombre de greffes. Donc, presque 5% d'augmentation, c'est une croissance importante, mais qui n'est pas encore suffisante par rapport aux besoins des patients.
Et on manque de donneurs, hein, c'est vraiment ça le
On manque de donneurs, il y a une modification des types de donneurs, et donc il faut s'adapter en permanence aux besoins des patients.
Alors, on manque de donneurs, avant de faire que Lou Capiquian nous raconte son parcours, et justement son parcours de greffé, que dit la loi là-dessus? Il y a une proposition dans la loi de santé qui est déjà passée à l'Assemblée nationale et qui doit passer au Sénat, une proposition de changement. Quel est exactement ce changement? Parce qu'on est présumé donneur, en fait, en France.
Voilà, depuis la loi Caillavé, qui est de 76, on est tous présumés donneurs. C'est donc un acte de générosité qui est sous-tendu par le fait que l'immense majorité des Français, plus de 80% des Français, sont en faveur du don d'organes. De même que 95% sont en faveur de la greffe, si vous voulez. Et donc, ce qui est demandé, c'est l'expression du refus, c'est-à-dire qu'une personne qui ne veut pas donner doit faire connaître sa position, soit au niveau du registre du refus, soit au niveau de sa famille.
Ça, c'est la loi de 76.
C'est la loi de 76.
Et qu'est-ce que...
Elle n'a pas changé dans son expression. Ce qui est changé, ce sont les modalités dans lesquels on va chercher à recueillir ce témoignage.
Voilà. C'est-à-dire ce qu'on demande à la famille au moment du décès de la personne où il y a la possibilité de don d'organes, c'est
voilà.
ça?
Voilà, on ne demande pas à la famille de décider, on demande à la famille d'exprimer le témoignage du défunt. Donc ce témoignage, la loi va préciser le cadre qui va permettre de l'exprimer. Et pour cela, il y aura probablement, après une discussion au Sénat, puisque cette loi n'a pas été encore passée au Sénat, un groupe de travail national pour réfléchir sur l'ensemble des modalités possibles.
Et ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, le problème auquel vous êtes confronté en ce moment, c'est finalement pas mal de refus des familles du défunt.
C'est effectivement le fait que le défunt n'ayant jamais fait connaître sa position, la famille...
Est démunie,
ne sait pas exactement la position, parfois exprime des avis divergents, une partie de la famille est pour, une partie est contre, et au final, le prélèvement ne se fait pas.
D'où l'importance de dire, on va le répéter tout au long de cette émission, de dire à ses proches quand on est pour ce don d'organes. Lou Capiquian, vous commencez votre livre en disant « Ma maladie n'est pas un mauvais moment à passer, elle continuera toujours jusqu'à la fin ». Ça, c'est le propre d'une maladie chronique que vous avez.
Oui, parce que c'est en continu. C'est en continu. Donc, Moi, j'ai appris ma maladie à l'âge de 21 ans. Hein. Donc, j'ai pas eu.
Racontez-nous comment vous étiez fatiguée depuis plusieurs années.
Bah, je commence mon livre hein, comme ça aussi en disant que je suis épuisée parce que c'était vraiment mon état. J'étais vraiment dans l'épuisement total, ne sachant pas en fait hein, ce que j'avais. Donc
ni votre médecin d'ailleurs,
ni mon médecin qui, pour lui, l'insuffisance rénale, enfin tout ce qui est lié au rein était plutôt une maladie de personne âgée entre guillemets, et ne pensait vraiment pas que je puisse avoir cette maladie-là. Et par la suite, il s'est avéré que c'était une maladie génétique, donc
qui a un nom très compliqué.
C'est la néphronophtite. Voilà. Et donc dans ma famille, enfin ça fait des décennies, on va dire. Que personne n'a développé cette maladie-là, donc personne n'aurait pu se douter que je pouvais avoir une insuffisance rénale et être atteinte d'une maladie chronique.
Alors effectivement, vous démarrez votre ouvrage en disant à quel point vous étiez fatiguée. Et aujourd'hui, est-ce que je peux vous demander si vous êtes fatiguée ou
non.
Pas
non,
c'est ça.
Non,
la greffe a changé la vie. Alors votre médecin met un peu de temps à comprendre ce qui se passe. Vous mettez d'ailleurs un moment sous antidépresseur. Et puis d'un seul coup, vous entendez parler de quelque chose qui vous suit maintenant toute votre vie, qui est la créatinine. C'est ça.
Voilà, la créate qui gère la dialyse. Et même aujourd'hui, hein, en tant que greffée, la première chose qu'on regarde sur nos résultats, c'est la créate.
Enfin, oui, c'est ça. Alors, cette créatinine, professeur Bastien, c'est quoi exactement?
C'est un marqueur de témoignage du métabolisme. Et donc, le rein est un des émonctoires, c'est-à-dire des organismes qui permet d'éliminer les déchets du métabolisme. Et donc, quand l'insuffisance rénale progresse, la créatinine monte.
C'est ça.
Comme d'autres facteurs.
Ça montre que le rein fonctionne pas bien, en gros, c'est ça.
Voilà, c'est exactement. C'est un marqueur du dysfonctionnement du rein.
Donc, on continue à surveiller votre créatinine tous les combien de temps, Luca Piquant?
En dialyse, c'était une fois par mois.
Oui, voilà. Et aujourd'hui?
Tous les trois mois encore.
Tous les trois mois, quand même, un examen pour savoir si ça fonctionne. Donc là, au bout d'un moment, au bout de quand même hein, de plusieurs années de fatigue, on vous découvre votre maladie. Là, vous comprenez quand même assez vite que c'est grave. Très vite, on vous dit, il va falloir songer à une greffe.
Alors, la greffe, on m'en a peut-être pas parlé immédiatement. Moi, j'ai eu la chance d'être suivie à Necker et d'avoir rencontré le professeur Legendre qui, lui, justement, m'a parlé de la greffe, surtout du don du vivant. Enfin, voilà, les premières questions qui m'ont été posées, ça a été de savoir, voilà, si dans ma famille, il y avait des gens qui souhaitaient, enfin, voilà, qui, comment dire...
Avant d'être complètement en insuffisance rénale, c'est-à-dire, vous n'étiez pas encore en dialyse?
J'étais pas encore en dialyse, en fait.
Mais on savait que vos reins fonctionnaient pas bien.
Voilà, on savait que mes reins ne fonctionnaient pas bien. Moi, j'ai été faire des recherches sur Internet. Et c'est là que j'ai connu l'association dont je fais partie aujourd'hui, qui s'appelle Rénalou, qui parlait justement du don d'organes, du don du vivant. Donc, du coup, j'ai fait des pieds et des mains pour rencontrer le professeur Legendre, ce qui a été possible avant que je sois dialysée. Et il m'a parlé de la greffe très rapidement, en me disant que c'était un des, enfin, parce qu'on dit la greffe, on a l'impression que c'est quelque chose, enfin, qui guérit. En tant que greffé, on n'est pas guéri. C'est un traitement comme la dialyse. Pour moi, en tout cas, la greffe est un des meilleurs traitements de l'insuffisance rénale.
Voilà. C'est sûr que c'est le meilleur traitement.
Et qui coûte le moins cher à la société, on peut dire ça, professeur Bastien.
Exactement, et sur le plan médico-économique, c'est le moins cher.
C'est le moins cher, exactement. Alors, Luca Piquant, donc vous êtes en insuffisance rénale terminale, pas encore tout à fait sous dialyse, mais vous savez que ça va arriver. On vous parle de cette question de donneur vivant, et là, vous faites quoi? Vous faites le tour de la famille pour savoir si quelqu'un veut vous donner un rein?
Voilà, j'en parle un peu autour de moi. C'est pas évident parce que, voilà, déjà, il y a le choc d'apprendre qu'on a une maladie chronique grave, parce qu'en plus moi dès le départ on parle de stade terminal, enfin voilà, le stade terminal nous renvoie à des choses quand même
quand on
très,
a 20 ans, c'est...
voilà, très négatives, et on se dit mince, enfin qu'est-ce qui se passe, alors que bon, dans l'insuffisance rénale, le stade terminal c'est juste que le rein ne fonctionne plus, enfin voilà, c'est pas comme d'autres maladies, on arrive à des choses un peu plus graves.
Et puis finalement, dans votre famille, les proches sont pas compatibles, c'est ça?
Alors, ma mère était compatible, mais ont également des problèmes de santé.
C'était pas raisonnable.
Donc à l'époque, il y avait pas encore on va dire qu'il y avait pas le don croisé, il y avait pas aujourd'hui on peut être greffé d'une personne qui a pas le même groupe sanguin que nous. Enfin voilà, il y a des avancées quand même qu'il y avait pas il y a une dizaine d'années, hein. Donc j'en ai parlé autour de moi et c'était la seule personne qui était compatible, c'était ma mère, c'était pas possible. Et ma tante, qui n'a pas souhaité.
Et alors, à partir de là, vous êtes sur liste d'attente.
Voilà.
On vous dit combien de temps sur liste d'attente ?
Alors, on m'avait dit entre 3 et 5 ans par rapport à mon groupe sanguin.
Et alors, en fait, ça a été 7 ans.
7 ans d'attente.
Professeur Bastien, 7 ans, c'est long, hein, quand même.
C'est tout à fait long et c'est effectivement une durée beaucoup plus longue que la moyenne en France, la médiane. Après, chaque cas est un cas particulier. C'est pour ça que donner des chiffres statistiques pour le vécu d'un patient, ça reflète pas ce que lui vit. Hein, voilà. Si on vous dit que la moitié des patients sont greffés dans les 2 ans, bah ça veut dire aussi qu'il y en a la moitié qui sont pas greffés dans les 2 ans. Donc il y en a qui pourront être effectivement sur des durées.
Au bout de 7 ans et d'autres au bout de quelques mois.
Voilà, exactement. Donc.
Et c'est une question là justement de compatibilité de greffon, c'est ça qui fait que probablement Luca Piquet a attendu plus longtemps.
Alors je connais pas toute son histoire médicale, hein. Je connais bien l'équipe de Necker, mais c'est pas voilà. Donc après il y a des cas particuliers, il y a effectivement des groupes sanguins rares, il y a des gens qui sont immunisés, il y a des gens qui ont des problèmes spécifiques, soit de nombre d'artères. Enfin il y a plein de raisons qui font que dans des cas particuliers ça peut être beaucoup plus long. Voilà, ce qui effectivement est important, c'est que le patient soit informé de ce délai d'attente. C'est aussi pour cette raison que on essaie de présenter les résultats différemment maintenant au niveau de l'agence de la biomédecine. On ne présente plus avec des chiffres bruts de moyenne, médiane, etc. On essaie de tracer la cinétique d'accès à la greffe pour que chaque patient puisse savoir au bout de 6 mois, 12 mois, 24 mois où il va en être dans son cas particulier.
Voilà. On a fait il y a une dizaine de jours une émission sur le don du sang. On a compris qu'on manquait finalement de sang de différentes origines, entre autres par rapport aux populations migrantes, que ce soit du continent africain ou de l'Asie. Est-ce qu'il se pose la même question sur les greffons ? Il vous faudrait des donneurs de populations d'origine étrangère ?
Oui, alors il y a effectivement une problématique de groupe sanguin, par exemple les groupes B ou les groupes AB qui sont rares et qui se retrouvent dans certaines ethnies ou dans certaines régions de France. C'est pas uniquement une question de couleur de peau, hein.
C'est, non, parce que je suis B.
Absolument. Donc c'est exactement. Il y a beaucoup de Basques, par exemple, qui sont du groupe B, par exemple. Et donc c'est pas du tout ce problème-là. Par contre, effectivement, ils ne peuvent pas recevoir tout, sauf des programmes très particuliers de groupes AB0 incompatibles. Alors la différence avec le sang, par contre, elle est importante, c'est qu'avec le sang, pour la greffe de moelle osseuse, par exemple, on peut aller chercher un donneur, y compris aux États-Unis, si vous voulez. Ce qui n'est pas possible pour une greffe d'organes.
Parce que
la durée de transport serait trop longue et incompatible avec une greffe.
Et Luca Piquet, c'est ce qui vous arrive, hein. Vous êtes un groupe B, c'est ça?
B+, oui.
B+, et effectivement, c'est plus rare. Ça a été une de vos complications.
Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et j'avais aussi les HLA, hein, qui étaient très compliqués et très complexes. Donc, c'était pas évident de trouver un donneur compatible.
Et on va revenir, hein, tout au long de cette émission sur la greffe et sur comment faire face à la pénurie d'organes.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et sur la greffe. Professeur Olivier Bastien, comment aujourd'hui faire face à la pénurie d'organes ? Alors, en parler comme on le fait aujourd'hui, mais encore.
Alors, il y a deux grands volets dans l'amélioration de la pratique. Il y a d'abord diminuer le taux de refus et d'augmenter le nombre de greffons. Donc, c'est ce qu'on fait par les campagnes de communication comme aujourd'hui. Et puis, l'autre volet, c'est effectivement toutes les amélioration médicale qui fait que actuellement, ce qui ne se faisait pas il y a quelques années, le don croisé par exemple, c'est une des possibilités.
Alors, expliquez-nous ce que c'est que ce don croisé.
Alors le don croisé, c'est justement la situation de Lou qui était avec un donneur potentiel qui était d'accord pour donner mais qui n'était pas compatible avec elle. Quelque part en France, il y a un autre couple donneur-receveur qui est dans la même situation et donc on peut les apparier, nous maintenant, parce que ça se fait depuis un an en France. en les croisant, et on va rendre le don anonyme. Il va y avoir deux donneurs vivants qui vont donner, mais les greffons seront échangés, on va dire, vis-à-vis des receveurs compatibles.
Parce que c'est la grande spécificité du rein, c'est qu'on peut donner de son vivant, parce qu'en fait, on peut vivre qu'avec un rein.
Absolument. On peut vivre avec un seul rein, avec bien sûr des critères d'évaluation au départ, pour pas prendre de risques, ce qui était le cas de la maman de Lou, qui ne pouvait pas à cause de ses risques, et puis également avec un suivi derrière, pour s'assurer que la personne n'a aucun problème.
Alors, c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui en France, c'est aussi à favoriser ce don de personnes vivantes.
Absolument. Alors, c'est un programme qui se développe beaucoup, puisqu'actuellement, l'année dernière, 16% des greffes de reins ont été faits à partir de donneurs vivants, et que j'espère qu'on arrivera à 20% cette année. Certaines équipes ont dépassé, même à Necker, c'est presque 30% actuellement, 31% même.
Lou Capiquian, racontez-nous comment s'est passée votre greffe. Comment, en fait, d'un seul coup, on vous appelle et on vous dit, ben, il y a peut-être un donneur pour vous, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Ça s'est passé un matin. Enfin, on m'a appelé très tôt.
Ça veut dire que vous aviez votre portable avec vous en permanence?
Ah, moi, c'était mon portable en permanence, chargé. Voilà, je ne sortais jamais sans mon portable. Et le moindre appel était, Enfin, en tout cas, quand je ne connaissais pas la personne qui m'appelait, c'était à chaque fois, est-ce que c'est eux? Est-ce que, voilà.
Mais donc bon, là, d'un seul coup, un coup de fil, c'était en quoi? J'ai noté en 2012, c'est
voilà,
ça?
Voilà, en 2012. En plus, c'était un jour où j'avais un rendez-vous très important pour une formation ou je ne sais plus quoi. Et on m'appelle très tôt le matin, on me dit écoutez, il y a peut-être un greffon, mais bon, vous êtes trois personnes, parce que du coup, c'est pas... Voilà, on est plusieurs personnes pour savoir laquelle est la plus compatible. Moi, je savais que j'étais quand même arrivée à un stade où j'étais dans le haut de la liste, que j'allais à un moment ou
ça,
un autre...
Ça, vous saviez, on vous l'avait dit que vous deviez...
Disons que j'avais demandé, j'étais bien suivie à Necker, et du coup, on m'informait en me disant, voilà, effectivement, que ça, c'est voilà, que au bout de 7 ans, quand même, on arrive à un stade où on est quand même en haut de la liste, et que, voilà. Et donc, on m'appelle le matin... vous devez rester à jeun, voilà, enfin, il y a une possibilité. Et moi, voilà, c'était la première fois en 7 ans qu'on m'appelait. Donc, c'était vraiment le stress de me dire, bon, c'est peut-être aujourd'hui, mais j'ai mis beaucoup de temps à réaliser. Voilà.
Et alors après, qu'est-ce qui se passe? On vous rappelle en vous disant, venez.
Cette journée-là était un petit peu complexe, parce que en définitive, apparemment, je sais pas ce qui s'est passé à Necker, mais à un moment c'était compatible, plus compatible, en fin de journée on m'appelle pour me dire que c'est bon, que je vais être greffée le lendemain. Donc on me dit voilà, j'étais à ma séance de dialyse et en sortant de dialyse, mon frère est venu me chercher,
et hop,
direction Necker, grosse prise de sang. Et se dire le lendemain, on va peut-être être greffé. Voilà.
Et vous avez été greffé le lendemain.
Et j'ai été greffé le lendemain, oui.
Mais alors là, tout n'est pas réglé du jour au lendemain.
Non.
vous faites en fait un premier rejet assez rapidement après la greffe.
Au bout de 15 jours, ouais. J'ai fait un premier rejet et un deuxième au bout de 3 mois. Voilà, la première année de greffe a été très très compliquée pour moi.
Professeur Bastien, expliquez-nous cette question du rejet et des médicaments anti-rejet.
Oui, donc il est, à part un jumeau identique, personne n'est totalement identique avec son donneur, et donc il y a toujours une possibilité de rejeter quelque chose, un organe qui n'est...
Le principe du corps humain, d'ailleurs, est de rejeter le corps étranger.
Absolument, c'est un mécanisme de défense naturelle, donc on bloque ce mécanisme
par
des médicaments.
Et c'est ça qui nous protège contre des infections, contre des choses
Absolument,
comme ça.
Absolument, ça protège contre des infections, ça protège contre pas mal de maladies opportunistes, comme on dit. Donc il faut respecter une forme de rejet, si vous voulez, mais il ne faut pas que ce rejet détruise l'organe greffé. Donc il y a des médicaments qui vont trouver l'équilibre. Voilà. Avec aussi toute une recherche sur la tolérance, puisque à un moment, l'organe est dit tolérant, un petit peu comme la tolérance, c'est le même mécanisme qui fait qu'une maman, quand elle est enceinte, ne rejette pas de son bébé, si vous voulez, même s'il n'est pas du même groupe
qu'elle. Puisque c'est un corps étranger.
Voilà. Mais on n'a jamais réussi à reproduire ce mécanisme merveilleux, on va dire, de la grossesse, qui fait qu'il n'y a pas de rejet, quoi.
Mais j'imagine que les recherches portent aussi là-dessus.
Mais il y a plein de recherches sur ce type de nouveautés, on va dire, thérapeutiques, de même qu'il y a des progrès chaque année sur les traitements anti-rejet.
C'est ça. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est greffé, on prend des traitements anti-rejet. Pour vous, Lou Capiquian, ça veut dire quoi? Combien de médicaments tous les jours?
Là, j'ai quand même pas mal diminué. Au début, fallait trouver le juste milieu, le bon dosage. Et donc, je pourrais pas vous dire ce que je prenais vraiment au début.
Et aujourd'hui, alors vous prenez quoi? Parce qu'il faut, faut les continuer, ces médicaments anti-rongiques.
Oui.
Alors,
ah oui,
vous en prenez combien de médicaments? Je sais pas, c'est beaucoup, c'est un, c'est quoi?
Non, j'en ai, je suis à 3 milligrammes et demi le matin et le soir, donc,
Enfin, vous avez au moins 5-6 médicaments.
Oui, j'ai 5-6 médicaments à prendre le matin et le soir, mais
on se retrouve dans 3 minutes juste après les informations, toujours pour parler du don d'organes.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. C'est aujourd'hui la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. Et on en parle avec le professeur Olivier Bastien, directeur du prélèvement et de la greffe organes-tissus au sein de l'Agence de la biomédecine en France. Et Luca Piquian qui a publié Les reins cassés aux éditions du Seuil, livre dans lequel elle raconte la greffe du rein dont elle a bénéficié. Et puis aussi les années de galère de dialyse. On en reparlera d'ailleurs dans la deuxième partie de cette émission. Si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Professeur Olivier Bastien, juste avant les informations, on était en train de parler des médicaments anti-rongiques. Quand on est greffé d'un corps évidemment étranger, il faut prendre des médicaments contre le rejet de ce corps étranger.
Absolument, il faut prendre un traitement qu'on ne peut pas arrêter, qu'on peut simplifier, mais qu'on ne peut jamais arrêter. Et donc, il est fondamental que le patient s'approprie son traitement, soit maître de son traitement. Et donc, ça, c'est le but de l'éducation thérapeutique. Et qu'il ait compris, qu'il sache ne jamais l'arrêter, sache moduler ou appeler le médecin au bon moment.
C'est ça. Et ne pas sauter une dose, entre autres.
C'est ce qu'on appelle la compliance. Ouais, il y a une partie des rejets qui sont liés à des défauts.
Lou Capitian, est-ce que vous êtes une bonne malade, entre guillemets, bien observante? Est-ce que vous prenez bien toutes vos doses?
Je prends bien toutes mes doses, mais voilà. Voilà, après, un oubli peut arriver, ou on n'a pas pris la bonne boîte de médicaments, on l'a pas sur nous. Enfin, voilà. Après,
ça veut dire que vous les avez, par exemple, ces médicaments toujours avec vous?
Oui, toujours, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut être bloqué, ne serait-ce que dans un ascenseur. Enfin, toujours avoir une bouteille d'eau et ses médicaments sur soi, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et en tant que malade, on connaît l'importance de ces médicaments.
Et au début, ça a été difficile de comprendre ça?
Disons que, enfin, pour moi, j'attendais tellement la greffe que ça n'a pas été si compliqué que ça de prendre mes médicaments, parce qu'entre choisir à être attaché à une machine
pour la dialyse
et prendre des médicaments, honnêtement, le choix est vite fait.
On reviendra sur ces 7 années de dialyse, parce qu'effectivement, c'est pas facile et on comprend du coup l'intérêt de la greffe. On a au téléphone le professeur Clément Akundoun-Guessant, qui est néphrologue au CHU Diopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Professeur Clément Akundoun-Guessant, bonjour.
Bonjour Madame Hédon.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Vous avez commencé, si je ne me trompe, à réaliser des greffes de reins en Côte d'Ivoire. Quand est-ce que vous avez commencé?
On a commencé précisément le 24 septembre 2012.
Donc il y a presque 3 ans, vous avez commencé ces greffes et pour l'instant vous en êtes effectivement qu'à la greffe du rein.
Tout à fait, nous ne faisons que la greffe du rein, oui.
Et alors, expliquez-nous, vous faites cette greffe du rein entre donneurs vivants?
Tout à fait, c'est des greffes à partir des donneurs vivants.
Racontez-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur ces greffes.
Alors, les difficultés sont d'ordre médical. Parce que déjà les malades eux-mêmes parfois ne sont pas en très bonne santé parce qu'ils ne sont pas très bien dialysés, mais aussi parce que parfois ces malades ont beaucoup de contre-indications. Les dialysés ont été plusieurs fois transfusés, donc ils sont parfois hyper immunisés, et donc ce qui fait qu'ils ont du mal à se trouver des donneurs. Et en plus de ça, il y a au niveau des donneurs eux-mêmes, il y a des complications parfois chirurgicales, des complications médicales aussi. Donc ça, c'est les premières complications auxquelles nous faisons face. La deuxième complication, c'est qu'en général, les patients sont très démunis face au coût de la greffe. Voilà, donc voilà un peu brièvement ce qui me vient à l'esprit comme difficulté, mais c'est tellement qu'il y en a d'autres.
Mais il y en a beaucoup. Ça veut dire, évidemment, pour l'instant, la Côte d'Ivoire est en train d'essayer de mettre en place un système d'assurance maladie, mais il n'y en a pas vraiment. Donc pour l'instant, ça veut dire que les patients doivent payer. Ça coûte combien? J'ai aucune idée.
Tout à fait. Les malades, les patients doivent payer d'eux-mêmes et on est entre 15 000 et 20 000 euros quand même.
15 000 ou 20 000 euros, ce qui effectivement est très très cher. Vous cherchez aussi, j'imagine, maintenant à développer le don d'organes de personnes décédées.
Oui, mais ça, c'est effectivement, je suis en train d'initier un avant-projet parce que la première loi ne faisait pas une part belle à la greffe à partir de sujets en état de mort encéphalique. Parce que dans cette première loi, les gens, les personnes doivent donner leur accord de leur vivant. Donc, ce qui est difficile, je ne vois pas trop quelqu'un qui va aller se présenter devant le procureur, et qui va lui dire, Régule, quand je vais décéder, vous prenez mes organes ou pas. Donc, il y a très peu de gens qui se souhaitent la mort. Donc, je suis en train donc d'initier un nouvel avant-projet dans lequel on va inscrire la notion de consentement présumé. Et puis qu'on va expliquer aux autorités la nécessité d'appliquer les déclarations d'Istanbul.
Comme on l'a chez nous.
Voilà, comme vous avez chez vous, voilà. Et un peu partout d'ailleurs, dans la plupart des pays à tradition de greffe, mais c'est ce qui prévaut, même des pays comme le Japon qui ont une tradition assez millénaire et où tout ça, ils sont quand même aussi à cette page-là. Voilà, donc il faut qu'on y arrive, ça serait difficile, puisqu'on n'a pas l'assurance maladie universelle, parce que les greffes à partir de cadavres, c'est les greffes d'urgence. D'une part, d'autre part, il faut donc, ça suppose qu'il faut avoir un laboratoire d'histocompatibilité sur place, mais effectivement, il faut que tout le monde soit assuré, sinon c'est pas possible. Mais il faut déjà au moins commencer par mettre en place les structures législatives.
Alors c'est ça, il y a la loi à changer pour que ce soit plus facile, mais vous avez commencé à l'évoquer, il faut aussi pour vous un système de santé qui fonctionne et des hôpitaux qui soient capables d'accueillir les personnes, de prélever et de conserver le temps que le patient arrive.
Mais tout à fait. Tout à fait. Et les hôpitaux sont tout à fait délabrés. Les hôpitaux ne sont pas fonctionnels du tout. Les hôpitaux universitaires, bien sûr, ne sont pas du tout fonctionnels. Et ça, pour le moment, les greffes à partir de cadavres ne sont pas pour le moment dans notre programme. Nous n'y pensons même pas du tout pour le moment.
Pour l'instant, c'est pas le moment. Professeur Olivier Bastien, l'Agence de la biomédecine française travaille avec des pays en développement justement pour les aider à mettre en place cette greffe.
Il y a effectivement des programmes de coopération qui doivent être bien sûr bilatérales, c'est-à-dire souhaités par le pays. Donc il y a eu un programme par exemple assez important pendant plusieurs années avec les pays du Maghreb qui a permis au Maroc de s'autonomiser, de démarrer un programme, y compris de prélèvement après mort encéphalique. L'Algérie est également demandeuse et la Tunisie également démarré. Voilà, on a aussi des partenariats avec des pays comme la Macédoine ou des pays qui ont des besoins spécifiques d'anciens pays de l'Est. Et puis il y a des pays effectivement et puis une aide, on va dire, législative pour les pays qui voudraient traduire la législation française, qui est souvent citée en exemple. Hein. On a souvent tendance à s'autocritiquer en France, mais le partenariat, il est important. Je suis allé pas très longtemps en Russie également, qui cherche à développer et à s'inspirer du programme français. Si vous voulez.
Donc, quoi la loi française justement est bonne là-dessus?
Elle est bonne parce que historiquement la France a été un pionnier, elle a su trouver l'équilibre entre les principes éthiques et, comme le rappelait notre correspondant de Côte d'Ivoire, la déclaration d'Istanbul, enfin un certain nombre de déclarations universelles.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette déclaration d'Istanbul?
Ben, elle lutte contre le trafic d'organes, contre toute la rémunération autour de la greffe, etc. Et elle fixe des grandes lignes pour les pays qui souhaitent adhérer à cette charte et développer le prélèvement, soit donne leur vivant, soit une mort encéphalique.
C'est très important de le repréciser, professeur Bastien, ce don d'organes, c'est un don gratuit, absolument indispensable.
Effectivement, il y a une neutralité financière totale, aussi bien le donneur vivant ne doit pas être rémunéré que il doit y avoir également d'autres principes comme l'anonymat qui est respecté en France.
Qui est très important. Professeur Nguessan, juste une dernière question, quels sont les pays d'Afrique subsaharienne, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, qui ont justement démarré des greffes du rein, évidemment excepté l'Afrique du Sud.
Alors, en tout cas, en Afrique noire francophone, on est les seuls à avoir commencé. Et puis, dans les autres pays d'Afrique noire, il y a à peu près, il y a le Nigeria, le Kenya qui a recruté récemment. Et puis, voilà, je crois que c'est les deux pays qui me viennent encore, qui me viennent à l'esprit. Quoi, voilà.
On en est au tout début. Juste un dernier mot, c'est absolument indispensable dans un contexte où vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de problèmes d'insuffisance rénale.
Oui, tout à fait. Si on s'en tient un peu à l'incidence de la maladie, si on se dit par exemple, ça c'est des études relativement vieilles, qui disent que l'incidence de la maladie rénale chronique, ou plutôt de l'insomnie chronique, si on l'estime que c'est entre 300 et 400 cas par million d'habitants par an, un pays comme la Côte d'Ivoire se retrouve à peu près à 20 000 cas d'insuffisance rénale chronique par an, donc c'est l'incidence. Et si on considère qu'il y a 1% qui a l'insuffisance rénale sévère ou terminale, et qui veut dire qu'il y a à peu près 2000 nouveaux patients à qui il aurait fallu trouver des places.
Vous voyez, en dialyse. De dialyse, oui.
Et 2000 patients, vous voyez, donc ça reste assez important. Et puis pour nos économies qui sont tout à fait délabrées, moins de moyens, je pense que les patients en insuffisance chronique sont vraiment mal lotis, quoi. L'avenir n'est pas très, très réjouissant pour ces patients, en tout cas dans nos pays.
Merci beaucoup, professeur Clément Akundu Nguessan. Je rappelle, vous vouliez réagir, professeur Bastien.
Oui, je voulais dire, c'est vrai que c'est à partir du moment où le système de santé progresse et qu'on donne accès à la dialyse, on crée aussi le besoin. Et pour certains pays, c'est jusqu'à 10% de toutes les dépenses de santé qui sont consacrées à la dialyse. Donc, il y a un moment, il y a une sorte de cercle vicieux dont il faut sortir, parce que sinon, un pays ne peut plus. L'exemple typique dans notre pays, c'était la Polynésie française, qui a pu démarrer, parce qu'elle a une certaine forme d'autonomie pour la santé, qui avait un taux très élevé d'insuffisance rénale. Ils dépensaient plus de 10% de leur budget pour la dialyse. Et il fallait absolument qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent démarrer la greffe. C'était le seul moyen de s'en sortir. Ce qui a été fait, et maintenant il y a un programme actif qui est très intéressant.
Merci beaucoup, professeur Clément Akundu Nguessan. Je rappelle que vous êtes néphrologue au CHU de Yopougon, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Professeur Bastien, quelles sont les maladies qui provoquent cette insuffisance rénale? Alors, il y a certes quelques maladies rares, et c'est ce que nous a raconté Luca Piccian, mais il y a aussi des maladies beaucoup plus fréquentes.
Voilà, les deux maladies les plus fréquentes, c'est le diabète, qui progresse dans tous les pays du fait de la nutrition ou de la malnutrition plutôt, du défaut effectivement de prévention ou de prise en charge précoce de ce diabète, et puis en deuxième position on va dire l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle qui va provoquer, si elle n'est pas traitée à terme, une insuffisance rénale aussi.
Voilà, c'est ça. C'est insuffisance rénale donc on traite avec la dialyse avant la greffe. Luca Piccian, vous racontez dans votre livre ces années de dialyse. C'est combien de fois par semaine?
Alors, c'est un minimum 3 fois par semaine.
C'est ça. Trois fois par semaine, combien d'heures?
Entre 4 heures et 5 heures, tout dépend de ce qu'on a à éliminer ou pas. Généralement, elles sont plus longues le lundi, parce qu'on a un week-end de 3 jours. Après, aujourd'hui, il y a différentes formes de dialyse. Ça commence à se développer également.
Alors, comment vous avez fait, vous? Parce qu'à ce moment-là, vous travailliez à l'époque. Vous faisiez comment?
Alors au tout début non, je ne travaillais pas. Hein, mais après par la suite oui effectivement. J'ai eu de la chance d'être en autodialyse, donc c'est-à-dire que je gérais ma dialyse. Donc c'était des centres avec simplement l'infirmière qui était là pour.
Mais c'était pas une autodialyse à la maison quand même.
Ça existe aussi à la maison.
Pour vous ça n'était pas le cas.
Disons que je vis seule, donc c'est compliqué en vivant seule de dialyser à la maison, parce qu'il faut qu'il y ait une présence. En tout cas, il y a le matériel à stocker. Enfin, ce n'est pas évident de. Puis moi, je voulais que ce soit à l'extérieur de chez moi.
Et alors, quand vous travaillez, plutôt, vous faisiez ça du coup le soir en sortant du boulot?
J'ai eu cette chance-là, oui, de pouvoir dialyser le soir, effectivement.
Et alors, il y a eu une période où vous êtes même passé à une dialyse quotidienne.
Oui, effectivement.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, ma durèse, c'est-à-dire que mes reins ne fonctionnaient plus du tout, donc j'allais plus du tout aux toilettes, je faisais plus du tout pipi, on va dire. Donc j'ai eu du mal à gérer mon poids, à gérer en fait tout ce qui s'est suivi. Donc les médecins ont pensé qu'une dialyse quotidienne pouvait me permettre en fait de retrouver un équilibre et de pouvoir gérer en tout cas mon poids entre chaque dialyse.
Et ça a été le cas, vous alliez beaucoup mieux.
En tout cas, moi, au début, j'étais un peu réfractaire parce qu'il fallait piquer tous les jours et que, voilà, c'était une contrainte quand même, hein, d'aller au centre tous les jours. Mais au bout d'un mois et demi, j'ai vu les effets. Et effectivement, ça a été des médicaments en moins de fatigue, parce que du coup, en fait, c'est comme si le rein fonctionnait tous les jours, hein. Donc, ça a été vraiment un plus pour moi.
Pourquoi ça n'a pas été possible de continuer?
Disons que financièrement, en tout cas au tout début, hein, je pense que pour le centre, ce n'était pas intéressant parce que du coup, j'étais la seule, hein, à faire cette dialyse quotidienne. Donc j'avais une infirmière pour moi. Donc effectivement, ça ne, enfin, c'était pas, comment dire. En tout cas, ils n'avaient aucun bénéfice.
Vous êtes très gentil dans la façon dont vous racontez ça. Dans votre livre, vous l'êtes beaucoup moins.
Oui.
Beaucoup plus agressif.
Oui, effectivement.
Je suis presque étonnée de vous trouver très gentille, douce, alors que je sentais de la rage dans votre livre.
En fait, oui, j'ai beaucoup été en colère, hein, surtout sur le moment quand on vit les choses, on est très en colère.
Contre le fait d'être malade, d'abord.
Déjà, la première chose, ça a été pourquoi je suis malade, enfin, voilà. Et, en plus, en étant au centre de dialyse, j'étais entourée surtout de personnes entre guillemets âgées, hein, pas vraiment jeunes. J'ai rencontré quelques jeunes, voire même des plus jeunes que moi, mais c'est sûr que on a beaucoup de mal à s'identifier, hein,
Et vous trouviez qu'on ne vous aidait pas à l'époque à continuer votre travail? Rien n'était fait pour vous faciliter votre vie professionnelle?
Disons que ça n'a pas été évident. Parce que voilà, je suis quelqu'un de très têtu aussi, et que moi, ma force, ça a été de vouloir continuer à travailler et d'avoir une vie, on va dire, normale, hein, comme
tout le monde. Le plus normal possible.
Le plus normal possible, et surtout que ça ne se voit pas à l'extérieur. Enfin, voilà. Par contre, oui, au bout de quelques années, je suis arrivée à un état d'épuisement où je ne pouvais plus continuer ce rythme-là. Effectivement.
Professeur Bastien, c'est pourtant important que des patients, entre autres quand ils sont jeunes, travaillent dans ce que vous avez lu, hein, son livre qui vous a été envoyé. Quand vous êtes arrivé, vous avez dit d'ailleurs, ce livre, tous les étudiants en médecine devraient le lire.
Tout à fait, parce qu'effectivement, cette autre vision qui est la vision du patient, elle est importante, il faut qu'on la comprenne. Moi, j'ai très bien compris, je veux dire, j'ai fait beaucoup de greffes sur des mucoviscidoses, qui sont des jeunes patients qui ont eu l'âge à peu près de loup quand ils arrivent à la greffe. Je me souviens très bien d'une jeune patiente qui était, après sa greffe pulmonaire, voulait absolument finir sa licence et qui a demandé ses bouquins pour réviser alors qu'elle était encore en réanimation. Je trouvais que c'était plein de courage, mais en même temps c'était son projet de vie, quoi. Elle n'était pas greffée pour rester une malade parmi d'autres malades, elle était greffée pour pouvoir vivre.
Et de temps en temps, nos hôpitaux, notre système de santé n'est pas, je dirais, adapté à ça, à cette envie de continuer à travailler et étudier.
Il y a des contraintes économiques, des contraintes de planning, des contraintes, c'est aussi difficile quand on est soignant pour les infirmières, elles font beaucoup d'heures supplémentaires.
Dans un contexte d'hôpital public qui va pas très bien, hein, qui manque de moyens.
Il y a une pression de tous les côtés, hein. Donc, il y a également, cette pression de l'autre côté qui fait qu'il faut trouver un équilibre, mais il faut aussi comprendre que le patient, lui, il a besoin à la fois d'écoute, mais aussi de retourner dans une vie normale, on va dire.
Luca Piquant, vous faites quoi aujourd'hui? Vous travaillez?
Oui, je travaille.
Vous faites quoi comme métier?
Alors, je suis secrétaire dans un service social.
Et alors, ils ont été très étonnés, parce que vous commencez du coup à parler un peu dans les médias, très étonnés d'apprendre que ce qui vous arrivait, puisque vous ne l'aviez pas dit.
Non, j'ai essayé de garder ça, enfin, pas secret, parce que voilà, mes proches, mes amis le savent, hein. Mais disons que voilà, je veux pas qu'on me montre, entre guillemets, comme la malade. Pour revenir sur le personnel soignant, que ce soit les médecins, c'est sûr qu'ils ne pouvaient... Enfin, dans le livre, on peut le ressentir comme quelque chose de... Je n'en veux pas ni aux médecins ni aux infirmières, parce que voilà, de leur côté, ça n'a pas été évident non plus. J'ai quand même eu énormément de soutien. Enfin, je voulais le souligner aussi, hein, de beaucoup de médecins, de beaucoup d'infirmières.
Puis aujourd'hui, vous avez un néphrologue qui vous entendait très bien.
Voilà,
j'ai
un très bon néphrologue, et même tout le long de mon parcours, j'ai rencontré des gens quand même, enfin, d'un milieu hospitalier, au niveau de la dialyse, des gens vraiment formidables. formidables qui sont là quand même pour nous soutenir et nous aider à avancer également.
Et aujourd'hui, vous allez comment? Vous avez l'air en forme.
Mais oui, bon, je suis en forme.
Vous allez bien?
Tout va bien.
Tout va bien. Pas fatiguée comme vous l'avez été.
Il y a une fatigue quand même, mais rien à voir avec la fatigue qu'on peut ressentir quand on est en dialyse. Ça, c'est sûr que la greffe change quand même la vie et,
Vous menez une vie normale.
Comme je dirais, on renaît. Voilà, vraiment de quelque chose et c'est important de souligner que, qu'on peut être malade et qu'on peut avoir une vie normale.
Professeur Bastien, c'est bien ça le message que vous voulez faire passer en ce moment avec ces journées de réflexion sur le don d'organes et de la greffe. C'est vraiment, la greffe, ça sauve des vies.
Absolument, la greffe, ça sauve des vies. C'est pas uniquement un médicament parmi d'autres médicaments. C'est vraiment une thérapeutique qui n'est plus une thérapeutique d'exception, qui est une thérapeutique qui doit s'étendre en nombre. Voilà, et c'est aussi l'occasion de remercier tous les donneurs aussi, de reconnaissance vis-à-vis de tous les donneurs.
Et vous venez de lancer une application, appli du donneur d'organes.
Voilà, c'est pas tout à fait une application, parce que sinon je vais me faire disputer par ma directrice de la com. C'est une vidéo qui se regarde sous YouTube, qui se regarde sous Facebook, etc. Et l'objectif, c'est de cibler cette génération des 15-25 ans, qui est très sensible à tout ce qui touche la solidarité, le don, mais qui ne regarde plus forcément la télé ou les journaux, mais qui va s'intéresser plutôt aux médias, aux réseaux sociaux. Et donc c'est une vidéo un peu choc, qui montre qu'on meurt qu'une fois. Enfin, le but c'est ça, c'est de montrer qu'on meurt qu'une fois et que il faut avoir donné sa position avant de mourir.
C'est ça. Dites à votre entourage si vous êtes pour.
Il n'y a pas d'âge pour dire sa position.
Voilà. Et c'est pas pour ça qu'on va mourir après.
Exactement. Donc c'est fait sur un mode humoristique. Je pense que ce qu'on veut, c'est qu'ils en sourient, mais qu'en même temps ça leur éveille quelque chose.
Juste un dernier mot, Luca Piccian, avant de retrouver notre chronique nutrition. Un mot sur Rénalou, vous l'avez évoqué, vous faites partie de cette association. Oui. Pour vous, ça a un peu changé votre vie une fois que vous avez pu parler avec des gens qui vivent la même chose que vous.
Oui, ça a été très instructif et on se sent compris, surtout. Parce que notre entourage peut être là, peut être présent, les amis peuvent être présents, mais ils ne vivent pas la même chose que nous. Et grâce aux associations de patients, on rencontre des gens qui ont vécu la même chose et qui nous comprennent. Donc je trouve que c'est important que ce genre d'association existe.
On mettra toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Je rappelle que vous avez publié Les Reins Cassés. C'est un livre qui paraît aux éditions du Seuil. Vous êtes venu d'ailleurs avec 4 exemplaires qu'on va faire gagner aux auditeurs. Pour cela, il faut qu'ils s'inscrivent sur Facebook et on fera un tirage au Je vous remercie beaucoup et on va terminer avec la chronique nutrition de Stéphane Besançon.
Priorité santé sur RFI.
Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Claire.
Vous êtes directeur de santé diabète, vous êtes basé au Mali, à Bamako, et toutes les semaines vous nous donnez des bons conseils de nutrition. Cette semaine, vous avez choisi de compléter votre chronique sur les produits diététiques en vous intéressant plus spécifiquement aux édulcorants. Voilà une question qui va intéresser beaucoup de monde. Et évidemment, la première question qu'on se pose, c'est de savoir ce que sont ces édulcorants.
Alors Claire, les édulcorants, c'est des produits qu'on dit sucrants, c'est-à-dire qui servent à donner un goût sucré aux aliments. On a deux grandes familles d'édulcorants qui existent aujourd'hui. On a d'un côté les édulcorants caloriques, donc qui apportent des calories, et de l'autre côté les édulcorants acaloriques qui, eux, n'apportent aucune calorie.
Et quelles sont les différences entre ces deux familles d'édulcorants ?
Alors, contrairement à ce que beaucoup pensent, les édulcorants caloriques, comme je disais précédemment, apportent des calories. Alors, ça surprend souvent beaucoup les gens. C'est le cas des polyols, comme le sorbitol, le mannitol ou le lactylol, et aussi comme le fructose. Ce qui veut dire que leur pouvoir hyperglycémant est inférieur à celui du sucre, le saccharose classique, mais il n'est pas nul. De même, leur valeur calorique est quasi identique à celui des sucres classiques ou des glucides. De l'autre côté, on a les édulcorants acaloriques, comme la saccharine ou l'aspartame. Ils sont appelés édulcorants intenses, car leur pouvoir sucrant est très important, à peu près 150 fois supérieur à celui du saccharose, mais leur avantage est qu'ils n'apportent pas de calories et que leur pouvoir hyperglycémant est quasi nul.
Et alors, et dans quels aliments on retrouve ces édulcorants ?
Alors, c'est intéressant de savoir ça parce qu'ils sont vraiment dans deux catégories différentes. Alors, les édulcorants caloriques, on les retrouve principalement dans les bonbons, les chewing-gums et dans les chocolats en tablettes qui ont l'appellation sans sucre. Et il faut bien se rappeler, c'est important de parler par exemple des tablettes de chocolat, que ces produits contiennent la même quantité de calories que le produit classique.
Déception. Déception de ma part. Je pensais que les bonbons sans sucre avaient moins de calories.
Eh ben non, justement, alors là c'est la première catégorie, alors attention parce que de l'autre côté vous pouvez avoir la bonne surprise, c'est que les édulcorants à calories, eux, sont présents dans de nombreux produits alimentaires avec l'appellation light, par exemple, dans des glaces ou des desserts, mais aussi en sucrète, donc le petit carré de sucrète qui remplace le sucre classique dans le thé ou le café. Donc là leur intérêt est justement, alors là c'est la bonne surprise, de permettre de consommer des boissons ou d'autres produits au goût sucré sans effet sur la glycémie et sans apport calorique.
C'est ça par exemple dans les sodas sans sucre sont vraiment sans sucre et sans calories.
Alors, suivant, oui, pour ce qui est de l'édulcorant, il est acalorique. Après, il faut se méfier que des fois, ils ne contiennent pas d'autres choses qui, eux, peuvent être caloriques. C'est comme on l'a vu la semaine dernière, c'est quelques pièges qu'on peut avoir des fois avec les appellations sans sucre et sans graisse.
C'est ça, il faut lire la composition qui est décrite en tout petit et pas facile à comprendre. Est-ce qu'il y a des risques à consommer ces produits, ces édulcorants ?
Alors, je pense que vous avez fait vous-même des émissions sur le sujet. Il y a beaucoup de controverses, notamment sur la toxicité de l'aspartame. Aujourd'hui, toutes les études réalisées montrent que l'aspartame ne pose pas de danger aux doses à laquelle elle est consommée. Classiquement, on sait que les dernières études ont montré qu'il fallait à peu près une consommation d'une dizaine de canettes de boissons par jour pour trouver des doses de toxicité. Donc, pour moi, il n'y a pas réellement un risque au jour d'aujourd'hui de ce côté-là pour quelqu'un qui consomme classiquement. Par contre, le risque, c'est que ces produits ils permettent pas profondément de modifier les habitudes alimentaires de manière à être moins accro au goût sucré. Donc de ce fait, sur le long terme, les consommateurs, ils peuvent être amenés à garder ce goût sucré, à consommer plus de sucre dans les différents aliments qu'ils consomment.
Et quelle est la conclusion qu'on peut retenir ?
Ben, je dirais qu'excepté dans le cas de maladies cardiovasculaires ou de diabète, il semble vraiment inutile d'investir dans ces produits qui sont souvent très coûteux pour perdre du poids. Il est vraiment préférable que les auditeurs apprennent progressivement à manger moins gras ou moins sucré. Le goût se modifiera progressivement et l'envie de ces aliments très gras et très sucrés diminuera et là il y aura un rééquilibrage de l'alimentation sur le long terme.
Merci beaucoup Stéphane Besançon et comme d'habitude on retrouve cette chronique sur le blog de l'émission, vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique priorité santé. Demain on parlera de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions soit par téléphone au 33 1 84 22 75 75 soit sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe de priorité santé, Didier Bleu, Assetou Samaké, et à demain.